La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui, Laurence Lequellec, conseillère.
Et Emmanuel Chiron, conseiller référendaire.
Évoquons d'abord l'actualité de la Chambre sociale de la Cour de cassation, avec deux décisions du 4 décembre 2024 relatives, respectivement, au principe d'égalité de traitement pour des salariés placés en situation de télétravail pendant la période de pandémie et au travail dissimulé en cas d'avantage en nature par mise à disposition d'un logement. Nous ferons ensuite un focus sur un arrêt du 2 octobre 2024 portant sur la situation d'une salariée au cours et au retour d'une suspension du contrat de travail pour congé de maternité pour le décrypter ensemble.
Commençons par notre premier arrêt du 4 décembre 2024 qui porte sur la question de l'attribution d'une prime et de l'application du principe d'égalité de traitement à des salariés placés en situation de télétravail pendant la période de pandémie que nous avons connue en 2020.
À ce titre, on peut déjà observer que la Chambre sociale est actuellement amenée à traiter de pourvois qui présentent un lien avec cette période.
Ici, la question posée est la suivante. Y a-t-il inégalité de traitement non justifiée pour le paiement de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, dite PEPA, entre les télétravailleurs et les salariés en arrêt maladie, y compris en arrêt pour garde d'enfants et personnes vulnérables et en congé payé ?
Pourrais-tu, Laurence, nous préciser les faits qui ont conduit la Cour de cassation à se prononcer sur cette question ?
Par une décision unilatérale, l'employeur a institué une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat d'un montant de 1 000 euros versée aux salariés ayant effectivement travaillé au cours de la période d'urgence sanitaire au sein d'un magasin, d'un drive ou d'un entrepôt dans lesquels les conditions de travail ont été exceptionnelles en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. La prime était proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période du 12 mars au 3 mai 2020. Il était précisé qu'était assimilé à du temps de travail effectif sur les sites concernés, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que tous les arrêts maladie, y compris les arrêts dérogatoires pour garde d'enfants et personnes vulnérables.
Il s'agit donc là de la définition du champ d'application, des bénéficiaires et du montant de la prime.
Oui, Emmanuel. Des salariés de l'entreprise qui avaient été en situation de télétravail pendant la période de crise sanitaire ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de la prime au titre des jours de télétravail en invoquant le principe d'égalité de traitement. Le conseil de prud'homme les ayant déboutés de leur demande, ils ont formé un pourvoi qui posait donc la question de savoir si la diminution du montant de la prime versée aux salariés en télétravail ne portait pas atteinte au principe d'égalité de traitement. Ils comparaient leur situation à celle de leurs collègues en arrêt maladie, y compris pour garde d'enfants et personnes vulnérables et en congé payé qui avaient bénéficié du versement intégral de cette prime. La Cour de cassation, par un motif de pur droit, a considéré que la décision de l'employeur ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement énoncé à l'article L1222-9-3, alinéa 1er du Code du travail, eu égard aux exigences légales qui découlent des articles L1132-1 et L3141-24 du même Code.
Pourtant, l'article L1222-9 pose le principe que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
Absolument, Emmanuel. Mais plusieurs autres règles doivent recevoir application. D'abord, l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er avril 2020, a prévu que le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction notamment de la rémunération, du niveau de classification ou des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19. Les textes applicables à l'époque prévoyaient également des dispositions spécifiques pour les salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants. Par ailleurs, en application de l'article L1132-1 du Code du travail, il est prohibé pour l'employeur de prendre en considération de façon défavorable les absences du travail pour raison de maladie. Enfin, selon l'article L3141-24 du Code du travail, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. C'est donc en application de ces dispositions légales que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement la décision de l'employeur d'attribuer la prime exceptionnelle aux salariés dont les fonctions devaient s'accomplir sur site durant la période de la pandémie, mais qui se trouvaient en congé, en arrêt de travail pour maladie, pour garde d'enfants ou en raison de leur situation de personnes vulnérables, tandis que les salariés en télétravail durant cette période n'en bénéficiaient que pour les jours travaillés sur site.
Cet arrêt est donc une illustration de ce qu'il peut être dérogé, par la loi, au principe d'égalité de traitement.
Tout à fait, Emmanuel. Le texte qui prévoit la possibilité du paiement d'une prime à certaines catégories de salariés en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 était de même niveau législatif que ceux instaurant le principe d'égalité de traitement, tout comme les textes interdisant la discrimination en raison de l'état de santé et de verser aux salariés en congé payé une rémunération moindre que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. L'employeur pouvait donc prévoir que la prime serait versée non seulement aux salariés dont les fonctions devaient s'accomplir sur site durant la période du 12 mars au 3 mai 2020, mais également aux salariés qui se trouvaient en congé payé, en arrêt de travail pour maladie, pour garde d'enfants ou en raison de leur situation de personnes vulnérables, sans violer le principe d'égalité de traitement à l'égard des salariés en télétravail.
Cela n'évoque-t-il pas un autre arrêt du 24 avril 2024 concernant une indemnité de cantine fermée ?
Oui. La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait retenu que les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, avaient été privés du service de restauration d'entreprise par l'effet de la pandémie au regard du versement de l'indemnité de cantine fermée. Cependant, dans cette autre affaire, c'est l'absence d'identité de situation entre les deux groupes de salariés, au regard de l'avantage en cause, qui explique la solution.
C'est ce qui justifiait une différence de traitement entre les salariés contraints de travailler sur place pendant la pandémie et les télétravailleurs.
Oui, car il convenait ici de s'interroger, comme l'a fait la Cour d'appel, sur le point de savoir si les salariés contraints de travailler sur site et les télétravailleurs étaient placés dans des situations identiques au regard de l'avantage en cause. Or, la Cour de cassation a relevé que l'indemnité de cantine fermée avait pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise. La Cour d'appel en avait donc justement déduit que tel n'était pas le cas.
Poursuivons notre actualité avec un arrêt du même jour, qui porte sur une toute autre question, celle de l'absence de déclaration d'un avantage en nature et du travail dissimulé. Laurence, peux-tu nous indiquer le contexte de l'affaire ?
Un salarié engagé en qualité de contrôleur technique de véhicule a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demande en paiement, notamment d'une indemnité pour travail dissimulé. La cour d'appel a accueilli sa demande en retenant qu'il bénéficiait d'un avantage en nature. Il s'agissait de la mise à sa disposition gratuite d'un logement que l'employeur n'avait pas déclaré aux organismes de recouvrement des cotisations sociales. Les juges du fond en ont déduit une dissimulation d'emploi. L'employeur a formé un pourvoi. Il faisait valoir que le manquement à l'obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant des avantages en nature et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffisait pas à caractériser une dissimulation d'emploi.
La Cour de cassation juge de longue date que la fourniture par l'employeur d'un logement constitue un avantage en nature, qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.
En effet, Emmanuel, et c'est de nouveau ce que la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt.
Alors qu'apporte cet arrêt ?
Le pourvoi soumis constituait l'occasion inédite de préciser que le manquement de l'employeur à son obligation d'évaluer l'avantage en nature que constitue la mise à disposition aux salariés d'un logement de fonction et de déclarer les cotisations sociales correspondantes entre bien dans le champ d'application du troisièmement de l'article L 82-21-5 du Code du travail. Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives au salaire ou aux cotisations sociales assises sur ceci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il s'agit d'un nouveau cas de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, introduit par la loi du 20 décembre 2010.
Oui, auparavant, la loi prévoyait uniquement les cas de la soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et de la soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité de la délivrance d'un bulletin de paie ou de la mention sur ce dernier d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Cette loi a ajouté qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives au salaire ou aux cotisations sociales assises sur ceci. C'est ensuite la loi du 16 juin 2011 qui a précisé que l'omission des déclarations doit être intentionnelle.
Pourquoi insister sur cette modification législative ?
Avant la modification législative, la Cour de cassation avait retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de payer les cotisations sociales en résultant, ne suffisait pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi, dès lors que ce manquement ne portait pas sur la détermination des heures de travail accomplies. Compte tenu des nouvelles dispositions applicables, la Cour de cassation décide que c'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que la mise à disposition d'un logement de fonction, de manière gratuite, était constitutive d'un avantage en nature qui devait, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisation sociale. Elle précise également que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l'entreprise, a retenu que l'intention de l'employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, était caractérisée.
Et nous poursuivons la Sociale Le Mag avec notre décryptage. Ce mois-ci, nous étudions un arrêt du 2 octobre 2024 qui est relatif à deux aspects de l'évolution de la relation de travail pendant et à l'issue du congé de maternité d'une salariée.
Mais avant d'aborder ces apports, rappelons les faits qui ont conduit à cet arrêt.
Une salariée occupant des fonctions de direction a été placée d'abord en arrêt de maladie, puis en arrêt de maternité. Elle soutenait que pendant ces périodes, l'employeur lui avait adressé des demandes insistantes et l'avait sollicité pour accomplir des tâches qui relevaient de son travail habituel, tâches qu'elle avait réalisées depuis son domicile. La Cour d'appel a suivi son argumentation et a estimé que l'employeur avait contraint la salariée à travailler pendant ces périodes de suspension du contrat de travail. Ce point n'était d'ailleurs plus en débat devant la Cour de cassation.
Quel est alors le premier aspect sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée ?
La question était de savoir si la salariée pouvait avoir droit à un salaire pour ses heures accomplies pendant la durée de la suspension du contrat de travail. Sur ce point, la Cour de cassation décide que l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur, au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité, engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. Elle n'admet donc que cette sanction, c'est-à-dire que cette prestation de travail ne donne pas lieu au paiement d'un salaire.
À première vue, voilà une solution qui semble surprenante. Dans l'exécution du contrat de travail, l'obligation de verser le salaire est la contrepartie normale de l'exécution d'un travail. C'est d'ailleurs ce qu'on peut résumer en disant que tout travail mérite salaire.
Et évidemment, au cours de l'exécution d'un contrat de travail, c'est un adage qui est adapté. puisque l'obligation de fournir une prestation de travail et celle de payer le salaire sont interdépendantes. Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire, sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. Au contraire, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié et il doit payer le salaire, sauf à démontrer que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
Mais dans l'arrêt que nous commentons, la prestation a été fournie pendant une période de suspension du contrat de travail. Il est donc nécessaire d'expliquer d'abord cette notion.
Effectivement, la suspension du contrat de travail recouvre des situations très diverses, dans lesquelles le salarié ne peut, temporairement, plus fournir de prestations de travail. On la définit donc comme une situation de droit, causée par l'impossibilité légitime et temporaire de poursuivre l'exécution du contrat de travail. Elle est prévue par le Code du travail, expressément pour le cas de maternité et indirectement dans l'hypothèse d'une maladie du salarié, comme dans l'affaire que nous évoquons ensemble. Le point commun de ces situations est que le salarié ne peut être tenu, pendant cette période, de fournir sa prestation à l'employeur. L'employeur, lui, n'est plus tenu de payer la contrepartie, le salaire.
C'est d'ailleurs pour cette raison que notre système de sécurité sociale prévoit, pendant ces périodes, le versement de revenus de substitution permettant d'assurer le maintien de ressources.
Et la Cour d'appel s'était justement appuyée sur ce point pour rejeter la demande en paiement de salaire. Mais ce raisonnement posait une difficulté. En effet, les indemnités journalières et l'allocation journalière de repos pendant le congé de maternité n'ont pas pour objet de rémunérer une activité de la salariée. Ce sont des prestations de sécurité sociale en espèces qui ont pour objet, pour les premières, de compenser l'impossibilité de percevoir des revenus en raison d'une incapacité physique médicalement constatée ou, pour le cas de la maternité, d'inciter à interrompre toute activité. Leur perception est subordonnée au respect de certaines conditions et l'une de ces conditions est justement l'absence de toute activité, qu'elle soit ou non rémunérée. Ainsi, l'exercice non autorisé d'une activité expose le salarié au risque de devoir restituer les indemnités journalières indûment perçues depuis la date du manquement. Des pénalités peuvent également être imposées à la salariée et à l'employeur selon le Code de la Sécurité sociale. Il est donc exclu que ces indemnités soient la contrepartie de l'activité de la salariée.
Donc, la motivation de la Cour d'appel reposant sur la perception de ces revenus de remplacement pour rejeter la demande en paiement de salaire ne pouvait pas être retenue.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi par une substitution de motifs. Elle s'appuie sur le fait que le travail, pendant les périodes de suspension, est un manquement aux obligations de l'employeur. Rappelons que la méconnaissance par l'employeur de l'interdiction d'emploi prénatale et postnatale est pénalement sanctionnée par une amende et que la jurisprudence considère que l'employeur doit veiller à ce que le salarié ne travaille pas pendant l'arrêt maladie. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle.
Et puisqu'il s'agit d'une faute de l'employeur, c'est donc bien sous la forme de dommages-intérêts et pas de salaire que ce manquement de l'employeur doit être sanctionné. Mais toute activité pour le compte de l'employeur doit-elle ouvrir le droit à réparation ?
Oui, même si l'arrêt commenté ne le précise pas expressément. En effet, par un autre arrêt du 4 septembre 2024, qui sera étudié de façon plus approfondie lors d'un prochain podcast, numéro 36, la Cour de cassation a jugé que le seul constat du manquement de l'employeur, en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie, ouvre droit à réparation. La demande ne peut donc pas être rejetée au motif de l'absence de préjudice subi.
Donc, et pour reprendre l'adage, on devrait plutôt dire que, pendant la période de suspension du contrat de travail, tout travail mérite non pas un salaire, mais une indemnisation. Et quel doit en être le montant ?
Sur ce point, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le montant des dommages-intérêts est déterminé souverainement par les juges du fond.
On voit que la Cour de cassation donne ainsi sa pleine efficacité à la suspension du contrat de travail pour maladie ou maternité en s'assurant de l'absence effective de prestations de travail pendant cette période et en sanctionnant les violations qui seraient intervenues. Mais, comme nous l'avons dit en introduction, cet arrêt présente un deuxième apport qui est, cette fois-ci, relatif à l'égalité de traitement dont bénéficient les femmes à l'issue de la suspension de leur contrat de travail pour congé de maternité.
La salariée soutenait, en effet, qu'une augmentation accordée à d'autres salariés de la même catégorie professionnelle au cours de son congé maternité ne lui avait été versée que pour la période de référence ayant commencé à courir à l'issue de ce congé et non dès qu'elle avait été accordée aux autres salariés. Elle estimait que cette absence de versement d'un rappel de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail était un élément de nature à laisser supposer un manquement de l'employeur au principe d'égalité de traitement et une discrimination à raison de son état de grossesse.
Concernant ces questions, et notamment la charge de la preuve en matière de discrimination, nos auditeurs pourront se référer au podcast numéro 27. Rappelons simplement qu'il n'est demandé aux salariés que de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et que ce principe s'applique également en matière d'égalité de traitement.
Effectivement. Et en l'espèce, la Cour de cassation énonce qu'un tel élément n'existait pas. Elle affirme que la salariée avait certes le droit, à son retour de congé maternité, à cette augmentation, mais qu'elle n'était pas due pour la période du congé de maternité durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de la verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
Nous avons vu lors du podcast numéro 23 que tant le législateur national que le législateur européen portent une attention particulière à la situation des salariés en état de maternité. Cette situation n'était-elle pas prévue par la loi ?
Si, c'est l'article L1225-26 du Code du travail qui prévoit que la rémunération des salariés est majorée à la suite du congé de maternité, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. C'est d'ailleurs ce texte dont la Cour de cassation a relevé d'office l'application dans l'arrêt que nous décryptons.
Mais si ce texte précise la date à laquelle le paiement des augmentations ainsi accordées doit intervenir, il ne précise pas la période de référence. Il ne précise donc pas si un rappel de salaire doit être versé pour la période du congé de maternité dès le moment où ces augmentations sont accordées.
Effectivement. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation fait également appel, pour l'énoncé de cette solution, à la suspension du contrat de travail pendant le congé de maternité.
Et on retrouve ici le double effet de la suspension que nous évoquions tout à l'heure, à savoir la suspension de l'obligation de fournir la prestation de travail, mais aussi la suspension du salaire.
Et comme l'obligation de paiement du salaire est suspendue, le congé maternité ne peut pas être la période de référence. La salariée ne peut donc prétendre pour cette période à aucun rappel de salaire, sauf accord collectif plus favorable. Les augmentations mentionnées par ce texte ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, mais uniquement à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci. Puisque ce principe avait été respecté par l'employeur, aucun élément laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement ou d'une discrimination n'était caractérisé.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 23 13 846, 23 14 259 et 23 11 582 et à la lettre de la Chambre sociale. Vous pourrez trouver les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Emmanuel.
À bientôt Laurence.